Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Je suis un peu en retard pour cet enregistrement, mais on enregistre quand même à peu près dans les temps convenus. Nous sommes le 23 janvier 2024 et c'est l'épisode 350. Dans cet épisode, on va vous parler des produits, des grands noms du gadget Samsung, avec le Samsung Galaxy S24 qui, vous allez voir, hein, marque un petit peu l'arrivée des smartphones peut-être grand public, haut de gamme, avec de l'intelligence artificielle dedans. On va en parler, plein de fonctionnalités assez cool. Il y a aussi Apple avec des choix étonnants concernant les services de paiement tiers, mais aussi avec son casque de réalité virtuelle mixte, réalité augmentée Vision Pro, pour lequel l'engouement des développeurs est, disons, limité. On va aussi parler encore d'intelligence artificielle et de la course à l'intelligence artificielle générale. Digne, possible, successeur à l'avenir de l'esprit humain. En tout cas, Meta voudrait bien participer. On va parler aussi un peu des soucis du moment chez notre chouchou de l'IA, OpenAI. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Ça va, j'ai sommeil.
Je te sens beaucoup plus posé et tranquille que moi.
Toi, t'es complètement speed. Moi, je sais pas, j'ai trop mangé, là, je suis sûr. Voilà. Je suis tranquille.
Mais j'ai bien mangé aussi. J'ai mangé des Faritas. Je te le disais juste avant qu'on enregistre l'émission. J'aime beaucoup les Faritas. Les Faritas Carrefour, pour être honnête. On va saluer comme il se doit Fred DeWitt, Crasteam 96, Vulperion, Benoît Galati, Frédéric Pesquet, Figico, Cassim Montilla, Dugreg, Aistiki Backshots et KD Attaqué. Alors, je pense que parmi toutes ces personnes que je cite, et vous l'aurez compris, ce sont les personnes qui sont venues nous soutenir sur Patreon. Il y a des personnes qui avaient arrêté de nous soutenir, qui sont revenues, d'autres qui viennent pour la première fois. En tout cas, évidemment, tapis rouge pour tout le monde. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut vous suggérer de faire, à savoir venir vous abonner pour une période donnée et puis suspendre l'abonnement quand vous sentez que vous avez un peu moins la possibilité, que vous ne pouvez pas forcément écouter les épisodes, ou peut-être qu'on ne répond plus aux attentes. Alors, c'est bien aussi de nous dire pourquoi on ne répond plus à vos attentes quand vous le faites. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Patreon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Patreon, c'est une plateforme de financement participatif qui nous permet de collecter des dons un petit peu à la hauteur de ce que vous semblez être pertinent pour nous rémunérer pour notre travail de livrer Tech Café chaque semaine. Et puis, donc, si vous appréciez notre travail, que vous souhaitez nous aider à continuer à vous apporter les dernières nouvelles et nos analyses et regards critiques du monde de la tech, nous vous invitons à devenir un contributeur sur Patreon. Et évidemment, c'est le principe des grandes rivières qui font les grands fleuves. Plus vous êtes nombreux à contribuer, même avec des toutes petites sommes, plus c'est vertueux. Profitez en échange d'un flux du privé pour écouter le podcast sans la pub. Vous pouvez trouver évidemment le lien vers notre page Patreon dans les notes de cet épisode ou en allant sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup pour votre soutien. On a un avis Apple Podcast comme pour chaque épisode. Cette fois-ci, c'est NetsABC qui a déposé un avis pour dire merci pour la recherche et la présentation de toutes ces informations. Je travaille pour une grande société française de la tech et ce podcast me permet de combler une bonne partie de la veille technologique nécessaire à mon métier. Très fluide, parfait dosage entre la vulgarisation et la technique. Merci d'occuper mes trajets aller-retour au boulot. C'est la raison d'être de Tech Café. Donc, merci beaucoup d'avoir pu partager cet avis sur Apple Podcast, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est-à-dire vous apporter une info de fond qui soit pertinente, intéressante, utile et dans un format qui soit le plus cool possible. On vous invite à commenter sur techcafé.fr et à échanger entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Guillaume, pas beaucoup de courriers des lecteurs pour cet épisode, mais quand même un message sur Mastodon de Fabrice Neumann. Bonjour Guillaume. Je trouve intéressante l'idée des lunettes pouvant remplacer un écran, comme les X-Riol, quand on est en voyage, train ou avion, pour travailler sur des docs confidentiels sans que les voisins ne les voient. Comme c'est souvent le cas dans les transports. Sachant que les filtres de confidentialité sont rarement utilisés et pas efficaces pour les personnes derrière, quant à regarder des films porno avec, même dans le train, je préférerais que les utilisateurs évitent. Oui, effectivement, ça peut créer probablement des situations gênantes, surtout si l'isolation peut-être du son de la vidéo n'est pas parfaite. Je n'avais pas anticipé cet usage qui me semble peut-être pas forcément suffisamment répandu au quotidien, modulo les personnes qui utilisent beaucoup les transports au quotidien chaque jour pour aller à leur boulot. Mais effectivement, c'est un cas d'usage qu'on peut envisager, le fait d'être en mobilité comme ça, sans forcément beaucoup de place, et d'avoir des écrans XXL. Pourquoi pas ? Sans autre forme de procès, Guillaume, on doit parler des news de la semaine, des news un peu chaudes. Et ben, les news du moment, c'est assez incontournable. C'est la nouvelle fournée de Samsung Galaxy S, les smartphones haut de gamme de Samsung, donc pas les pliants, mais les traditionnels et que je considère un peu haut de gamme, la Galaxy S24. Guillaume, tu as suivi ces annonces et tu voulais nous partager un peu tes retours.
Exactement. Et cette semaine, il y avait le grand déballage Samsung, le Galaxy Unpacked, où on a pu voir les nouveaux flagships, hein, les téléphones haut de gamme Galaxy S24, donc S23 Plus, S24 Ultra, S24 Plus, S24 Ultra, donc il faut suite évidemment ben, au S23, au S23 Plus et au S23 Ultra. Sans déconner, ça c'est de l'info. Et qui mise d'ailleurs sur une forte continuité quand même, hein, au niveau matériel. Parce que bon, les S24, ils ressemblent quand même beaucoup au S23. Franchement, il faut vraiment regarder les détails hein, pour se rendre compte que bah, ce sont de nouveaux modèles. Hein, les écrans des S24 ne sont plus bombés. Ils sont plus courbés sur les bords, si tu veux. Ils sont tout plats, donc ils sont pas pliants.
J'ai jamais aimé
ça,
moi.
Tout plat, tout rigide, voilà. Ah, t'as jamais aimé ça? Bon, bah après, c'est...
J'ai jamais aimé le côté courbé qui fait qu'en gros, bah, t'as des reflets en plus. C'est pas une surface très utile, je trouve. C'est beau comme ça quand tu vois
c'est
le produit, mais au quotidien, je trouve pas ça génial.
Mais effectivement, mais c'est pas super pratique, mais c'est joli. Enfin bon, mais enfin, effectivement, c'est un truc, une question de goût. Mais ouais. Oui, donc c'est un petit peu plus pratique. Le S24 Ultra a une coque en titane, hein, ce qui est classe et qui permet à Samsung de le rendre encore un tout petit peu plus cher. Parce que le très haut de gamme commence désormais à 1 300 $, soit 100 de plus que l'an dernier, c'est-à-dire 1 469 € en France, parce qu'évidemment, quand on a les prix constructeurs, c'est des prix hors taxes, bien entendu. Donc les S24 Plus et S24 d'ailleurs partent à 1 169 et 899 € respectivement, donc ce n'est quand même pas cadeau. Mmh. Évidemment, bah pour ce prix-là, c'est de haut de gamme, hein, bien sûr, mais bon, il n'y a pas de révolution par rapport à l'an dernier. On a des écrans qui sont très légèrement plus grands, parce qu'il y a des bordures très légèrement plus fines, qui sont un petit peu plus lumineux, on est toujours en OLED, toujours en 120 Hz, une partie photo toujours impressionnante, avec une caméra principale de 200 mégapixels, un téléobjectif 50 mégapixels avec un zoom 5 fois et plus 10 fois, en fait, le zoom n'est plus 10 fois optique. Donc il y a moins de zoom et plus de pixels pour essayer de compenser un petit peu. Il y a un 12 mégapixels grand angle, on pourrait dérouler la fiche technique. D'ailleurs que les S24 Ultra sont équipés de Snapdragon donc en 8 en Gen 3. Bon, ça pour tous les S24 du monde. Par contre pour les autres, pour l'Europe, bah, on aura des Exynos. Et donc il faudra voir à l'usage à quel point c'est, à quel point on y perd ou pas, on verra.
Soit en autonomie, soit en puissance.
C'est ça. C'est, disons, par le passé, on a parfois eu, effectivement, pas une totale parité entre les Exynos et les Snapdragon, mais bon, on verra. Donc, on va le dire, le S24 est vraiment une évolution incrémentale dans la ligne Galaxy, et si vous avez un S23 ou un S22, voire un S21, franchement, pas qu'il y ait pas de raison particulière de changer de téléphone, à moins que... Oui, parce que comment faire quand on n'a pas de changement matériel majeur et disruptif? Eh bien, on a introduit des changements majeurs et disruptifs logiciels, pour essayer de vendre quand même de nouveaux terminaux. Et c'est pour ça que Samsung insiste particulièrement cette année sur le fait que les Galaxy sont des téléphones IA. Et oui, comme les PC cette année seront des PC IA, et ben voilà, vous avez des téléphones IA. Alors ça commence avec la photo, où on va retrouver des fonctions qui font quand même vraiment beaucoup penser à ce qu'on a vu sur les pixels de Google. Hein. Donc on pense à la gomme magique, hein, qui permet de virer des éléments disgracieux hein, sur les photos, comme les poubelles, les fils électriques ou Tonton Raoul. Hein, voilà, c'est aussi chez Samsung désormais. Avec la possibilité donc de détourer bah, et déplacer des sujets, hein, donc voilà, de compléter les bords manquants aussi quand on tourne les clichés, de créer des vidéos en slow motion à partir de vidéos normales en rajoutant des images.
Ça, c'est malin.
Alors, ça a l'air de marcher très bien, en tout cas dans les démos, effectivement. Bah, ça interpole les images bah, comme le ferait un DLSS 3.5, hein, par exemple, hein, donc tout à fait, sauf que bah, là, effectivement, vous jetez une vidéo en 4K normale et vous avez donc interpolé voilà, deux ou trois images en plus et forcément ça fait ça fait vraiment un truc assez convaincant quoi. Toutes ces fonctions donc sont génératives, sont a priori accélérées par le NPU des Snapdragon ou des Exynos et semblent dans les démos marcher bah, aussi bien que chez Google disons a priori. Bon alors à noter que si une photo est modifiée ça sera inscrit dans ses métadonnées, donc il y a une petite icône qui apparaîtra dans un coin pour bien spécifier que l'image a été modifiée. Une délicate attention, bon, il semble que ce soit pas vraiment watermarking, par contre, hein, j'ai l'impression que, enfin, je doute que ce soit quelque chose de vraiment robuste, hein, je pense que c'est des métadonnées, donc tu peux les vérifier facilement, à la limite, si tu veux, j'imagine, mais bon, ouais, ça sera aussi à tester.
La petite icône, il suffit de recadrer, ou même d'utiliser encore un outil d'IA.
En fait, je pense que je pense pas que ce soit un truc qui soit ajouté à l'image, je pense que c'est rajouté dans les métadonnées et que c'est affiché par rapport
au
téléphone.
Alors, il y a les deux. Hein. Ah, d'accord, ok, autant pour moi, j'ai mal interprété les prises en main.
En tous les cas, c'est pas comme le Content Credential qui, apparemment, est un peu plus... Bon, enfin, je sais pas, on verra.
Ok.
Mais disons qu'au-delà de l'image, Samsung proposait aussi des fonctions pour le texte plus ou moins attrayantes. Alors, dans le moins attrayant, on a la fonction de reformulation qui s'active via le clavier Samsung et qui permet bah, de reformuler un texto écrit à l'arrache. Hein.
Genre, Guillaume, je vais être en retard pour l'enregistrement de Tech Café. Je t'envoie par SMS. Tu pourrais le reformater comment, par exemple?
Bah, tu pourrais le reformater en formel, poli, enjoué, bourré d'émojis ou de hashtags. Voilà, ce qui va permettre à tous les vieux dinosaures comme moi de se faire passer pour des Gen Z sur TikTok. Hein. C'est quand même formidable.
Foutre des hashtags. Ou de se mettre la honte, parce que ça va être très gênant, au contraire, que tu utilises ce type de langage.
Ah, ça, écoute, c'est une fonction étrange, hein, puisque vous demandez explicitement à votre téléphone de ne pas écrire comme vous. Donc, en plus, les retours en mode formel et social semblent assez comiques, tant ils sont caricaturaux. Donc, il y a un exemple que j'ai lu dans Engadget. Donc, c'est un message. Le message de base, c'était salut, où je pourrais aller me faire un barbecue? Et comment ça va, au fait? Bon, alors ça deviendrait donc en mode formel. Bonjour, j'aimerais m'enquérir de la disponibilité d'un délectable barbecue dans mon voisinage. Additionnellement, j'espère que vous vous portez bien.
En fait, c'est pas très formel, mais ça en est drôle et je pense que ça va être utilisé un peu en second degré en vrai, parce que t'envoies ça à tes potes, c'est drôle.
Je pense aussi, mais bon. Alors la version sociale, c'est à peu près le message d'origine, mais avec des hashtags foodie, hashtag foodie, hashtag
barbecue. Personne ne fait ça.
Personne qui fait ça, quoi, c'est vraiment. Donc c'est. Mais bon, c'est comique aussi, quelque part, bon, pourquoi pas. Bon, enfin, heureusement, il y avait aussi des fonctions qui paraissaient authentiquement utiles, hein, comme la traduction simultanée, donc il y a 13 langues supportées et identifiées automatiquement par le téléphone, qui peut donc jouer les interprètes dans une conversation en personne, donc avec quelqu'un en face de soi, de vive voix, la transcription apparaît alors donc sur l'écran, enfin, donc l'écran est scindé en deux, en haut et en bas, donc elle est inversée en haut pour que votre interlocuteur puisse la lire, pour que vous puissiez lire tous les deux simultanément les transcriptions. Donc il est aussi possible de l'utiliser via une conversation téléphonique. Hein. Si le S24 initie l'appel, il peut permettre à deux personnes de converser dans des langues différentes. Il fait l'intermédiaire en temps réel. Alors bien sûr, tout ça n'est pas totalement du jamais vu. Hein. Ça fait quand même penser au Live Translate des Pixel 6, par exemple, qui faisait aussi le boulot local, d'ailleurs, grâce à sa puce Tensor. Quant à la qualité de ses services, faudra voir. Bon, évidemment, dans les démos, ça marche bien. Les journalistes Engadget ont noté quand même un lag significatif qui casse un petit peu le rythme, mais bon. Et à voir aussi à quel point la qualité est suffisante pour pas créer trop de quiproquos rigolos ou dramatiques. Mais bon,
effectivement.
Voilà, dans le doute, ce sont clairement des fonctions bienvenues, quoi. Hein. Il y a une autre fonction bienvenue, c'est le résumé. Donc résumé de notes et transcription de conversation aussi. Donc le S24 peut écouter une conversation de plusieurs minutes et la transcrire en différenciant les interlocuteurs, donc faire de la diarisation, comme on dit. Il peut aussi noter, donner un résumé synthétique fidèle, autant qu'on puisse en juger pour le moment. Hein. La fonction résumé est aussi disponible d'ailleurs dans la prise de notes de l'application dédiée qui permet du même coup de résumer tout type de texte, évidemment d'où qu'ils viennent, des emails, des pages web, etc. Donc c'est une fonction qui est aussi très utile si elle est évidemment suffisamment fiable. Et enfin, il y a une dernière fonction qui semble pratique, c'est le circle to search. Donc c'est le principe, c'est évident, hein. C'est ce que ça dit, c'est-à-dire vous entourez un truc, vous faites un cercle, vous entourez un truc avec votre doigt sur votre écran, n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, même un élément de l'interface, d'une appli ou de votre téléphone. Et Google vous donne des infos dessus. Donc c'est une sorte de super lens, super Google lens. Alors pourquoi pas? Évidemment, c'est plus pratique que de prendre une photo d'écran, de détourer les trucs pour ensuite le passer sous lens. Donc c'est une fonction de Google, par contre, hein, qui arrivera d'ailleurs sans doute à terme ailleurs, hein, bien sûr. Mais bon, là, ça fait partie d'un partenariat entre Samsung et Google pour les fonctions IA du S24 au sens large. Partenariat qui pourrait coûter de l'argent à terme. Donc c'est pas forcément impossible, on va dire.
C'est quand même juste dans la présentation de ce S24 et de la gamme S24, il y a des petites précisions qu'il faut qu'on partage quand même. Alors déjà, il y a 7 ans de mise à jour qui sont quand même annoncés du système d'exploitation et sur le plan de la sécurité. Ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi, rendons leur hommage quand même, la perspective de voir les fonctionnalités d'IA mise à disposition pour le Samsung Galaxy S23, donc ça veut dire que...
Et justement, ça c'est intéressant.
Alors allons-y, on continue, je te laisse continuer à dérouler et puis je comprends.
Bah non, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que les fonctions d'IA textuelle pour les téléphones S24 sont propulsées par Gemini, le modèle de langage de Google, en version nano pour tout ce qui se passe sur le téléphone et en version pro pour le reste. Mais c'est là que ça devient un petit peu moins clair, en fait, parce que d'après ce que j'ai vu et lu, la fonction de traduction, par exemple, semble effectuée en local. Pour le reste, c'est pas
très
clair.
Il y a la possibilité,
clair.
Je crois, de l'activer en local ou de le... Non.
Alors, pour la traduction, en plus, bon, quand tu voyages, franchement, ce serait quand même très logique que tu ne sois pas obligé forcément de te connecter, tu vois. Bon. Donc, j'espère que c'est le cas, je pense que c'est le cas. Il écrit sur le blog de Google lui-même que l'application Samsung Note, par contre, l'enregistreur vocal et le clavier utilisent Gemini Pro. Je peux difficilement croire qu'un truc qui rajoute des hashtags ou des emojis comme un TikToker de 14 ans en échec scolaire nécessite la puissance de Gemini Pro. Je suis quand même un poil déçu. Mais bon, voilà, la fiabilité des résumés et des notes est un petit peu mieux garantie, évidemment, avec un plus gros modèle, forcément. Donc ça, c'est plus rassurant. Et Google continue en disant aussi qu'il y aura Imagen 2 qui sera utilisé, qu'il y a des fonctions génératives dans l'application Galerie de Samsung. Et bon, en plus, Samsung est en première ligne pour utiliser Jimny Ultra, qui va bientôt sortir, donc... Durant la présentation, c'était pas si clair en fait, ce qui était exécuté en local, ce qui nécessitait forcément une connexion cloud. Et en fait, un peu plus tard, effectivement, on a su que des fonctions, les fonctions de reformulation de texte, de traduction simultanée et de correction des photos, ainsi que Circle Search d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que voilà, ça allait être aussi disponible sur S23, mais aussi sur Z Flip 5, et même sur les Galaxy Tab S9. Et bon, le truc, c'est que tout ce petit monde contient un Snapdragon 8 Gen 2, qui contient donc aussi un NPU, une puce pour le deep learning, et qui est un peu moins rapide. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tout va se faire via le cloud? Et surtout, si les téléphones Galaxy passent le temps à faire des appels, voilà, appeler papa ou les serveurs de Google, surtout pour Gemini Ultra, bah à terme, ça risque de coûter un œil à Samsung. Donc, on peut se poser la question parce que il est bien stipulé que les fonctions IA du S24 resteront gratuites jusqu'à fin 2025.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe en 2026?
Sous-entendu, voilà. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce sera forcément payant non. en 2026, mais en tout cas, ils ont besoin de
cadrer
ça.
Non, mais disons que le truc, c'est que le fait que les fonctions IA aillent sur d'autres téléphones, bah, du coup, ça rend encore moins exceptionnel le S24, parce que coup, si tu peux avoir tout sur ton S23, bah, ouais. Et en plus, si c'est des fonctions qui sont en majorité cloud, comme ça a l'air d'être le cas, ben, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, après tout, OpenAI fait payer GPT-4, et DALL-E, Google fera payer Gemini Ultra, tout le monde fait payer ses modèles les plus puissants, donc tout est possible. Et donc, il pourrait être possible à l'avenir d'acheter un téléphone de 1500 balles et de devoir payer 10 ou 20 balles par mois pour débloquer toutes ces fonctions. Oui. C'est pas super attrayant quand même, hein. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 2 ans, hein, évidemment. Donc les modèles locaux peuvent devenir suffisamment puissants d'ici là, on sait pas, mais en tous les cas... Bon, est-ce qu'il y a un abonnement comme ça qui pourrait se matérialiser en plus? On va savoir.
C'est tellement évident que ça va arriver qu'il ne faut même pas se poser la question. La question, c'est de savoir
super.
Quand et si ce sera impacté dans d'autres services ou pas, tu vois. Mais bon, enfin, malheureusement, je crains qu'à long terme, ce ne soit le cas. Après tout, profitons-en tant que c'est entre guillemets gratuit et qu'on n'a pas besoin de payer un abonnement en tout cas. Tu sais qu'en fait, juste au global quand même, Guillaume, sur ce S24, moi, j'en ai 2 enseignements. Quand même, c'est tout ce que j'aime dans les services de l'intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, ce que tu dis sur la manière de formuler les SMS de manière probablement assez ridicule, de manière formelle, c'est pas très convaincant. Après, j'imagine aussi que ça va aussi s'améliorer, s'adapter, qu'il va y avoir d'autres types de déclinaisons. Et honnêtement, si jamais le smartphone te permet de subtilement adapter ton langage quand tu parles à un collègue versus quand tu parles à tes enfants, par exemple, franchement, je me dis pourquoi pas. Mais globalement, les fonctionnalités qui sont proposées par intelligence artificielle sont assez convaincantes et en tout cas beaucoup plus que « Waouh, ton smartphone te permet de générer un fond d'écran avec un prompt et donc c'est de l'intelligence artificielle dedans ». En gros, tu vois, je trouve que dans les usages, c'est vachement plus intéressant. Les exemples qui sont donnés sur l'enregistrement de vocaux, enfin de type magnétophone, quoi, et où il te retranscrit ça avec des résumés de texte, c'est hyper intéressant. Évidemment, ça va soulever la question de la fiabilité de cette restitution. Mais moi, je suis très convaincu par l'expérience qui est dessinée, pas au point de vouloir mettre ce prix-là pour un Samsung. On le sait en plus, hein, malheureusement, désolé pour eux, mais les Samsung, les smartphones Samsung ont tendance à assez vite perdre de leur valeur dans les mois qui suivent leur sortie. Donc là aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Mais c'est très convaincant, au point que, je t'avoue, tu sais que je suis utilisateur d'iPhone, je trouve que quand même, Guillaume, iOS 17 commence à avoir un sacré coup de vieux quand tu vois ce type de fonctionnalités qui sont intégrées nativement dans l'OS. Et je pense que c'est peut-être là l'enseignement, c'est qu'il faut considérer que Samsung donne un petit peu le là de ce qui va être attendu comme étant l'usage de référence des smartphones auprès du grand public dans les mois et dans l'année à venir. Je me trompe, Guillaume, ou est-ce qu'on peut s'imaginer que ça va être une tendance qu'on va voir fleurir à tort et à travers au Mobile World Congress?
Oui, je pense que c'est inévitable. Hein. De toute façon, c'est ce qui va arriver sur les... Enfin, c'est ce qui est déjà arrivé finalement. Sur les PC avec les copilotes, avec Windows 11 et compagnie, bon, c'est à peu près inévitable, effectivement, qu'il y ait des fonctions IA à peu près sur tous les terminaux. Et c'est très probable qu'Apple s'y mette aussi très bientôt, parce que, comme tu le dis, à un moment donné...
Ça commence à se voir. allez, on continue, Guillaume, en matière d'appareils. On est très... alors, il y a de l'intelligence artificielle quand même dans ce qu'on relaie, mais quelque part, c'est... Bon, merci aussi Samsung de nous permettre de parler de sortie de smartphone, parce que c'est rare maintenant qu'on relaye comme ça les nouveaux produits, les nouveaux smartphones, parce que ça ne change pas suffisamment. Là, c'est intéressant qu'on s'y intéresse. On continue donc, Guillaume, sur les appareils.
Oui, après, pas vraiment, en fait, puisque Samsung a dévoilé un rendu 3D de son prochain wearable. Un anneau de fitness, le Galaxy Ring, qui est c'est une bague avec plein de capteurs à l'intérieur. Et pour le reste, bon, en fait, on sait pas trop, parce qu'il n'y a pas eu de précision sur ce que ça fait, ni combien ça coûte, ça valait le coup, hein. D'autant que, bon, un anneau de fitness, c'est pas vraiment nouveau, puisqu'il y a déjà la bague Oura, qui en est à sa troisième version, quand même, hein, et qui mesure une vingtaine de données biométriques, oxygénation, fréquence cardiaque, température, etc. Donc, en termes technologiques, c'est pas hyper impressionnant, hein. Par contre, ça veut pas dire que la future Galaxy Ring est déjà condamnée, hein, loin de là, parce que l'anneau de Oura, il est cher, il fait 300€, plus un abonnement de 6€ par mois.
Ah oui, d'accord, je ne savais pas
et
du tout
oui,
ce
et donc,
prix-là. Okay.
Du coup, avec sa force de frappe, hein, Samsung pourrait largement offrir quelque chose qui serait moins cher et sans abonnement. Ça permettrait d'avoir la concurrence sur le secteur. Donc, ça serait vraiment bienvenu s'il y avait des alternatives. Hourra, si je puis dire.
Youpi. Effectivement, à ce prix-là, c'est... faut être motivé. Très bien. Et j'aime beaucoup ce que tu as écrit dans les notes de l'épisode. Je vous le cite pour une fois, comme ça, ça vous incitera définitivement à aller lire les notes des épisodes. Un anneau pour les traquer tous, un anneau pour les trouver et dans le fitness les lier. Bravo, Guillaume. On continue à parler d'Apple, Guillaume, qui obtient un petit achievement, un succès qu'il a débloqué.
Ça roule, hein. Apple, ça va, la crise, c'est un état d'esprit, hein. Apple est désormais le premier vendeur de smartphones au monde. En part de marché avec 20,1% du total, avec un nombre d'unités vendues en hausse de 3,7% par rapport à l'an dernier. Le deuxième, c'est Samsung, à 19,4%, il est en recul de 13,6%. Apple a vendu 234,6 millions de téléphones, contre 226,6 pour Samsung. Et je suis estomaqué d'apprendre que le téléphone à la pomme le plus vendu de l'année est l'iPhone 14 Pro Max, un appareil qui part à 1 100$ strict minimum hors taxe, bien sûr. Bon, moi je croyais que les gens avaient des soucis, tu sais, l'inflation, tout ça, bon, en fait je me pose des questions. Bon, le téléphone le moins cher d'Apple, le SE, à 429$, quand même 429$, ben il se vend mal, il se vend pas. Alors il se vend pas parce qu'il est mauvais ni rien, mais en fait c'est juste parce que les parts de marché du milieu entrée de gamme, c'est toujours trusté par Android de toute façon, mais bon, qu'Apple soit le premier en termes d'unités vendues, de nombre d'unités, ça me sidère, parce que moi qui jamais de ma vie ne mettrais 1000 balles dans un téléphone, mais bon. Passons. Vient ensuite donc sur le podium Xiaomi avec 12,5% du marché, puis Oppo 8,8% et Transsion avec 8,1%. Alors Transsion, c'est une marque chinoise qui est virtuellement inconnue ici, hein, mais qui progresse très vite en Afrique où elle est déjà très présente et qui veut déjà truster le marché indien qui va se lancer. Donc voilà, ça augmente vite. Le reste des acteurs se partagent donc les 31% restants du marché. Finalement, il n'y a guère que Transsion et Apple qui sont en hausse cette année. Hein. Toutes les autres marques voient leur vente reculer plus ou moins.
Transsion, ça me fait penser à un nom de méchant dans le film Donjons et Dragons. Spoiler, c'était pas un super film, et c'était un méchant un peu ridicule. Guillaume, on continue à parler d'Apple, mais sous l'angle de la réglementation, et en particulier du DMA.
Oui, après ce succès tonitruant, de petit, mais vraiment petit, un revers pour Apple. Bon, alors d'une part, la Cour suprême des États-Unis a envoyé paître globalement à la fois Epic et Apple. Concernant un appel du jugement d'avril 2023, le fameux procès Epic Apple, hein, dont on a maintes fois parlé, et qui s'est conclu sur un jugement largement favorable à la pomme, hein, bien sûr, hein, ce qui ne l'a pas empêché de faire appel, évidemment, pour avoir une issue encore plus favorable. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc il va devoir faire la maigre concession à quoi leur imposer. C'est-à-dire, en fait, globalement, c'est d'éliminer ce qu'ils appelaient leur règle anti-dérapage, qui interdisait aux développeurs de mentionner des alternatives au système de paiement in-app d'Apple, en particulier des alternatives moins chères sur le web. Alors ça a été jugé anti-concurrentiel, et donc les développeurs pourront le faire. Mais Apple va quand même demander 12 à 27% de commission sur les paiements faits via cette autre plateforme, qui elle-même demandera sûrement des frais d'ailleurs au total par ailleurs, donc au total ça n'y aura aucun intérêt finalement, hein, certainement pour les développeurs. Et donc, voilà, il y a de grandes chances que les devs ne le fassent pas et qu'Apple gagne encore une fois en faisant semblant de jouer le jeu et en traînant les pieds. D'autant que la possibilité même de faire ça vient avec tout un tas de contraintes supplémentaires. Hein. Alors, c'est pour le bien des utilisateurs, bien entendu. Alors, évidemment, Epic a gueulé et il a déjà annoncé qu'il allait contester les fausses concessions au tribunal. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Avec ces deux-là, c'est super. Sacré Apple, quand même. Bon, c'est un gros contrôle fric, on le sait, et certaines pratiques ne sont pas non plus compatibles avec la réglementation européenne. Par exemple, la puce NFC des iPhones ne peut être utilisé pour le paiement que par ses propres apps. Donc les liens de paiement, ça concerne que les stores US. Là, le coût du NFC, pour le coup, ça concerne que l'Europe, hein, évidemment. Mais ça va commencer à devenir compliqué, ce machin, et donc, après enquête, Apple va, contraint et forcé, ouvrir aux fournisseurs d'accès tiers l'accès à la puce NFC pour le paiement, donc c'est une étape qui est bienvenue, sans doute. C'est un tout petit galop d'essai néanmoins avant l'entrée en vigueur du DMA en mars, donc on se souvient, ça va être intéressant à voir, hein, parce que il y a des règles, il y a des nouvelles règles qui vont forcer Apple à permettre le sideloading, c'est-à-dire de s'affranchir de l'App Store pour installer des apps. Il y a aussi un enjeu majeur sur les commissions, sur les paiements in-app, bien que rien d'officiel n'ait encore été annoncé par Apple. Alors que le NFC, par contre, c'est officiel, hein, c'est une info qui vient de la Commission européenne. Donc mentionnons pour finir que le DMA va aussi forcer Meta à séparer les comptes Facebook et Instagram, et on pourra aussi, par exemple, utiliser Messenger sans avoir de compte Facebook. Puisque l'appli est séparée, ben le compte devra l'être aussi. Ou encore, si tu utilises Facebook Gaming ou Marketplace, ben les infos seront séparées du compte Facebook. C'est comme Google, hein, qui doit désormais, en Europe uniquement, hein, permettre de refuser le partage de données entre YouTube, entre Google Maps, Chrome, YouTube, etc. Tu vois.
Ça va leur donner sans doute quelques heures de travail et probablement quelques maux de crâne pour s'adapter à tout ça. Mais bon, évidemment, d'un point de vue consommateur, on ne peut être que ravi de voir cette tournure des choses. Il est évident qu'Apple, quand ils vont mettre à disposition la possibilité d'installer les applications tierces, ils vont nous demander de nous engager sur notre sang. Le fait qu'il va falloir qu'on soit conscient du retour massif du sida, du Covid-19 et du massacre d'une population de chatons pour accepter d'installer des applications tierces. On voit les choses venir. J'étais Guillaume en train d'échanger avec Patrick Béja dans le cadre du Rendez-vous Tech et il était bien plus remonté encore que nous ne pouvons l'exprimer dans cet épisode sur la tournure que prend les choses et sur les choix d'Apple pour se, entre guillemets, conformer à cette directive légale. Je vous laisse écouter, évidemment. On continue avec Apple parce qu'il y a le Vision Pro qui arrive là. Guillaume, est-ce que tu as commandé ton Vision Pro? Tu l'attends peut-être? Tu fais partie des heureux qui l'ont précommandé?
Non, moi, si on me l'offre, je le prends. Hein, franchement, ça a l'air très
petit
sympa.
Petit appel du pied aux auditeurs.
Bien sûr. Mais bon, voilà, il est effectivement en précommande. Hein, donc, c'est vrai que vous pouvez donc le réserver à $3,500 hors taxe, toujours. N'oubliez pas notre Patreon si vous avez réservé le truc à 3500 hors taxe, merci. Parce que bon, il y a quand même des amateurs. Hein. Minchico estime entre 160 000 et 180 000 à peu près le nombre de précommandes dans le week-end. C'est au doigt mouillé, hein, parce que c'est basé sur ce qu'il sait des inventaires et des durées de livraison qui varient. Bon, voilà. Donc il voit quand ça part, il voit s'il n'y a plus de stock, etc. Donc c'est parti fort, mais attention, il n'y a pas de rupture pour le moment, ce qui pourrait indiquer une grosse vague de précommandes par les fans hardcore et friqués au tout début. Et puis voilà, après, de toute façon, le Vision, ça reste un produit de niche, hein, forcément. Apple a aussi mis à jour son site avec une nouvelle vidéo, une visite guidée. Donc il y a aussi plus de journalistes qui ont pu le tester. Bon, évidemment, c'est toujours assez impressionnant, deux écrans 4K. Un écran 4K pareil, forcément, ça fait plaisir.
Ça a l'air chouette, quand même, en usage, c'est sûr.
Évidemment. L'ergonomie, donc, d'ailleurs, reste assez familière avec des petits boutons et des petits trucs qui viennent de l'Apple Watch. Il faut s'habituer un peu aux gestes avec les doigts pour manipuler les fenêtres, par exemple. Tout ça illustré par un mec beaucoup trop enthousiaste qui passe en rue les fonctions de base. Oui. Parce que c'est vraiment des fonctions de base, il est sur le cul tout le temps. Ah, un gros écran.
Je serais peut-être comme lui, hein. Moi, je me moque pas parce que je serais peut-être comme lui.
C'est fou, c'est un gros écran. C'est bien de garder son âme d'enfant. Donc, y a aussi
ça n'est pas surjoué du tout.
Non, c'est pas surjoué, bien sûr. Donc il y a des démos sur les environnements aussi, fonction de vidéo call, voilà, bon, de la réalité mixte quoi, hein, bon, ok. Donc tout a l'air parfait, bien entendu. Bon, d'après certains journalistes, ouais, c'est pas si parfait que ça, ça reste un casque, quand même, le poids finit par se faire sentir au bout d'une heure, voire moins, finalement, même s'il y a un effet wow incontestable, hein, c'est pas encore évident de voir où ce truc va prendre sa place dans la vie quotidienne. Et puis c'est pas du tout évident de voir si on va l'utiliser toute la journée, tu vois. D'une manière ou d'une autre. Mais bon, on s'imagine quand même bien utiliser force de temps en temps, effectivement, pour des sessions, utiliser des écrans géants, mettre des fenêtres partout juste pour le fun, évidemment. Bah, ça a l'air quand même assez cool. Au-delà de ça, faudra voir quelles sont les applications qui vont vraiment encourager les achats d'une version grand public, hein, du Vision, parce que là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des trucs pour les pros, pour les devs, mais que c'est pas encore mainstream.
C'est un kit de développement payant, quoi.
Oui, c'est à peu près ça. Alors, Disney a quand même annoncé déjà qu'il faisait un partenaire avec Apple pour amener son catalogue de films 3D sur la machine. Donc, le Vision Pro pourra faire tourner de base, de toute façon, toutes les apps iPad et iPhone, et ce seront les apps dédiées qui feront la différence, je pense, à un moment. Donc, on sait déjà que Netflix ne sera pas de la partie, puisque ni lui, ni YouTube ne vont se casser la tête à faire des applications spécifiques au Vision Pro, hein, rien à foutre. Ce qui n'empêche personne de voir des vidéos quand même, hein, via un simple navigateur du reste. Alors il y a déjà Fruit Ninja qui est adapté, et What the Golf d'ailleurs, hein, je ne sais pas si ça va vraiment faire décoller les ventes, mais voilà, on va voir comment l'écosystème se développe, et bon, voilà, comment les modèles successifs vont évoluer, quoi.
Ça fait cher pour couper des fruits en réalité augmentée, mais peut-être que c'est effectivement très convaincant.
Si vous voulez faire ça, le MetaQuest 3 est beaucoup moins cher pour faire une chose.
Oui, t'as raison. Je revoyais d'ailleurs des vidéos de quelques démos du MetaQuest 3, qui est forcément plus cher, bien plus cher que le MetaQuest 2, mais qui est vraiment un gap, a priori, plutôt chouette. et qui offre aussi des performances assez cool et des cas d'usage assez intéressants, bien moins cher que le Vision Pro. Et au passage, le Vision Pro qui n'est pas compatible, on le rappelle, hein, avec les Progressive Web Apps. Donc, tu n'as même pas la possibilité de transformer un site web en une expérience telle qu'on peut l'attendre aujourd'hui sur nos smartphones. Bref. Allez, on termine cette rubrique galactique, Guillaume, avec Google.
Oui, encore des licenciements chez Google. Hein, bon, déjà chez X-Labs, donc avec des dizaines de licenciements et un objectif de créer plus de startups indépendantes qui vont se débrouiller. Donc, en gros, ça sent que Google veut arrêter de se mettre de l'argent dans certains trucs où il voit pas il voit rien venir quoi de concret. Il aimerait bien donc qu'il se trouve des fonds tout seul ces projets. Bon, mais c'est surtout quand même la branche publicité dans le sens de vente d'espaces publicitaires hein, qui souffre. C'est prévu, ça avait été fuité dans The Information. Ça concerne des centaines d'employés et particulièrement l'équipe Large Customer Sales, c'est-à-dire les LCS, c'est-à-dire les paradoxalement les ventes aux plus gros clients. Et là, on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement entre ces nouvelles-là et tous les changements qu'il y a eu chez Google dans son offre produit aux annonceurs. Hein. Donc 2023 a été l'année où Google, comme Meta et Amazon, hein, de toute façon, ont tous mis en service de nombreuses fonctions IA. Pour un petit peu tout. Pour rédiger des slogans, des descriptions, pour pitcher des campagnes, pour générer des fonds. Voir des photos de produits, voilà, des trucs en entier. Donc, évidemment, il y a aussi des chatbots pour orienter, accompagner les clients, donc ils remplacent des vendeurs, hein, orienter les clients vers les campagnes qui leur conviennent mieux, les forfaits, tout ça. Donc, c'est tout un tas de trucs qui sont, dans une certaine mesure, automatisés, hein, et dont on peut se demander à quel point ces nouvelles fonctions ont rendu redondants les employés licenciés aujourd'hui. Et d'ailleurs, et c'est encore pointé par The Information, si Google sabre ses équipes et fait des économies sur les postes dans les vendeurs, dans la vente de pub, c'est pas du tout la même chose en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs en intelligence artificielle. Là, on ne regarde pas la dépense. En fait, toutes les grosses boîtes se battent pour les meilleurs. OpenAI a réussi à débaucher certains talents de chez Google à coup de contrat à plusieurs millions de dollars. Et donc, du coup, c'est devenu un mercato. Et pour garder ses cerveaux, Google est prêt à surenchérir et à proposer des bonus bien gras en actions ou en cash. Et de plus en plus, les Sam Altman ou les Mark Zuckerberg, ou même la Silicon Valley, de toute façon, dans son ensemble, sont tellement à fond dans l'IA qu'ils se mettent carrément à minimiser l'impact qu'auraient les intelligences artificielles généralistes sur le marché de l'emploi, ou sur l'économie, ou même sur notre quotidien. C'est assez incroyable à voir, finalement, parce que c'est ce qu'a dit Sam Altman à Davos, hein, au Forum économique mondial. Le PDG d'OpenAI y a fait sa star, limite, voilà. Et d'ailleurs, au Forum, on a parlé presque plus d'IA que de guerre, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et pour Altman, les intelligences artificielles généralistes sont assez proches, hein, elles pourraient arriver dans un futur à moyen terme, quoi. Elles sont envisageables, voilà, à moyen terme, mais il faut pas s'affoler. Mais non, c'est bon. Écoute, regarde, aujourd'hui, on a déjà des trucs cool, et ça n'a pas remplacé massivement les gens. Ça augmente la productivité, c'est des outils, c'est tout, c'est des beaux outils, mais c'est des outils. Alors, d'après sa copine Anna McAndrew, ça change les emplois, mais ça ne les remplace pas. D'après diverses études qu'elle cite pas. Bon. Des études qui ont été menées donc juste quelques mois après l'apparition de ChatGPT, hein, des études qui sont donc comme poil préliminaire, pas une masse de recul quand même là-dessus, mais bon. L'IA, ça démultiplie les capacités, voilà. Et quand les AGI, hein, donc parce qu'ils utilisent toujours cette expression AGI, donc Artificial General Intelligence, donc intelligence artificielle générale, bah, c'est toujours un poil flou d'ailleurs de ce que ça veut dire, bah, quand ces trucs seront fabriqués et déployés, bah, ça changera le monde beaucoup moins que ce qu'on s'imagine. C'est ça qu'il dit. C'est ce qu'il dit textuellement. Et c'est un peu ce qui est devenu la mode, ou la norme, hein, je sais pas, en ce moment, je trouve que cette manière de banaliser l'AGI, donc, et de dire que oui, bon, ça va, hein, c'est pas aussi foufou que ce qu'on imagine, hein, ça, faut pas être parano non plus, c'est quand même incroyablement différent de ce qu'on entendait l'an dernier. Souvenez-vous, en 2023, on a quand même eu droit à des hauts cris des uns et des autres, hein, de Geoffrey Hinton, d'Elon Musk, on a eu une lettre ouverte qui a exhorté à la pause dans la recherche en IA. Mais cette année-là, non, c'est le truc, c'est « non, c'est bon, c'est chill, ça va bien se passer ». Et Zuckerberg est exactement pareil dans la vidéo qu'il a publiée récemment dans Instagram, il fait exactement la même chose en fait.
Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas comment on doit, nous positionner, Guillaume, finalement, si on essaye d'avoir un petit peu de recul, il faut paniquer ou pas, selon toi ?
Bien sûr. Bon, bah, dans le doute, il faut toujours paniquer.
Oui, par défaut, paniquons et puis ensuite analysons. On va continuer à en parler, évidemment, dans la rubrique suivante. Et ça nous permet justement de parler un petit peu des projets de Meta dans ce sujet, Guillaume.
Écoute, oui, puisqu'on en parle, Meta semble se recentrer encore sur un autre sujet. Hein, voilà. Et évidemment, c'est quoi ? Ben, c'est l'IA, hein, cet autre sujet. À quelle originalité ? Donc le métaverse, attention, c'est toujours un focus majeur, hein, bien sûr, on est toujours à fond. Mais en fait, s'il y a bien un truc où on est encore plus à fond, c'est l'IA. Et l'IA open source en particulier, d'ailleurs. Donc dans un reel Instagram, Mark Zuckerberg annonce le rapprochement de ses équipes IA FAIR et GenAI, donc IA générative. Alors leur objectif, c'est explicitement de créer une intelligence artificielle générale, donc une AGI. Ça y est, c'est officiel, ils veulent faire ça. Comme OpenAI donc. D'ailleurs, au passage, Mark Zuckerberg va déplacer l'équipe FAIR pour l'intégrer à la division produit. C'est-à-dire qu'à l'avenir, donc Joël Pinault, qui est vice-présidente de FAIR, et Yann LeCun, qui est directeur scientifique, rendront des comptes à Chris Cox, qui est directeur des produits de Meta, et non plus au directeur technique Andrew Bosworth, qui dirige la division Reality Labs, par ailleurs. Alors, c'est un changement qui a l'air, technique comme ça, mais qui en fait est très significatif, parce que ça veut dire tout simplement que l'IA devient en quelque sorte un cœur de métier, puisqu'il intègre la division produit. Donc c'est devenu un produit comme un autre produit parmi les produits principaux que fait Meta, quoi. Donc, du coup, je sais pas, Meta, est-ce qu'il va encore changer de nom? Est-ce qu'il va s'appeler Metia? Je sais pas.
J'ai failli faire la blague.
Parce que, voilà, évidemment. Zuckerberg veut créer une nouvelle génération d'IA, hein, donc capable de raisonner, de planifier, d'aller plus loin dans tous les domaines. Et ils s'en donnent les moyens, parce qu'ils ont quand même 350 000 NVIDIA H100, c'est-à-dire les dernières nées, hein, de la marque. Hein, ça coûte 30 000 dollars pièce en moyenne, ce truc, voire plus. Et comme, bien sûr, ils avaient déjà des GPU d'avant, hein, c'est quand même pas dire qu'ils font ce genre de truc. Ça leur fait l'équivalent de 600 000 H100 au total de puissance de calcul disponible. Et bon, 600 000 fois 30 000, ça fait bien 18 milliards de dollars de budget minimum pour avoir cette puissance de feu. Après, vous inquiétez pas, en face, il y a du lourd aussi. Hein, Google, qui développe ses propres puces, les TPU, doit avoir largement pareil, voire peut-être plus que Meta et Microsoft combinés. Bon, toutes ces belles machines sont en train d'ailleurs d'entraîner Llama 3, en ce moment même. Hein, ils ont même un plan, en fait, ils ont une roadmap pour plein de futurs modèles de langage qui sont d'ailleurs tous open source, donc les nouveaux Llama sont en chemin et ils arriveront, et ils seront publics, enfin ils seront en open source aussi. Donc Mark termine son intervention avec un petit coup de métaverse quand même, parce qu'il faut pas déconner, donc il pense que les appareils idéaux pour utiliser les IA sont des lunettes de réalité mixte, hein, qui verraient et entendraient ce que nous on a autour de nous, donc qui seraient toujours en contexte et qui pourraient réagir de manière pertinente à tout moment. Et donc la conclusion elle est double, Meta se recentre sur l'IA et veut créer des AGI, un peu comme tout le monde ces derniers jours, ces derniers mois-là, quand même. Puisque désormais, voilà. Et puis, alors, c'est la deuxième conclusion. Hein, l'AGI n'est plus une source de peur. Voilà, vraiment. C'est ni peur, ni fantasme de Terminator. Non. C'est juste un business comme un autre. D'ailleurs, Elon Musk est un des promis, qui était un des premiers à hurler sur les dangers des superintelligences, a lui-même créé sa propre boîte d'IA qui s'appelle XAI. Et qui, je le rappelle, quand même voulait comprendre la véritable nature de l'univers. Hein, rien que ça. Donc, OK. En 2024, sachez que la mode, c'est plus l'affolement, c'est une attitude paternalisto-blasée. Oui, les AGI, c'est pour bientôt, faut pas en faire tout un plat, allez, t'inquiète, popiette. Ça va changer un peu les habitudes, c'est tout, ça va augmenter la productivité, mais non, ça va pas remplacer des emplois. Puis pendant ce temps, y en a qui font leur carton chez Google quand même, mais ça n'a peut-être rien à voir. En réalité, je pense que personne ne sait exactement ce qui va arriver et comment les IA vont impacter le marché du travail et le quotidien, parce que tout simplement, elles sont pas là depuis longtemps, ces IA. Hein, elles sont toujours en pleine évolution. En plus, il n'y en a aucune idée de jusqu'où elles pourront aller. Donc forcément, ça fait quand même pas mal d'inconnus. Et en fait, y a un peu que des inconnus. Seule chose qui est vraiment sûre, hein, c'est que le business d'OpenAI, et d'un petit peu tout le monde, et de Meta aussi, et de ses collègues, c'est de vendre de l'IA. Et donc, c'est pas bon pour le business que les gens s'affolent et qu'ils aient peur de tes produits. Donc, c'est pas... T'inquiète, ça va aller.
Et on n'est pas en train de dire qu'ils ont forcément tort, hein, mais ça paraît en tout cas bien pratique à l'aune d'un relais de croissance. Guillaume, je me posais la question d'ailleurs quand tu listais le nombre de H100 et la puissance de quelques heures dispo. Je ne sais pas si pendant une heure, Meta, ils arrêtent de bosser sur leur projet et qu'ils minent du Bitcoin pendant une journée avec toutes ces ressources-là. Je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Quels seraient les résultats? Quels résultats ils pourraient obtenir sur...
Les bitcoins, c'est pas idéal d'utiliser des GPU pour miner du bitcoin, parce qu'il faut des ASIC qui sont encore bien plus performantes que ça, en fait, bien plus efficaces.
Ok, d'accord. Bon, c'est bien pensé. Tu parlais en tout cas des perspectives en matière d'emploi, de la manière dont l'intelligence artificielle pourrait impacter le quotidien professionnel de tout un chacun. Et justement, il y a une analogie que tu voulais relayer. Qu'au début, j'ai du mal à comprendre. Hein. Je t'avoue, en lisant l'article que tu avais collecté dans les notes de l'épisode, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Pourquoi Guillaume parle de ça? Mais c'est quoi? C'est un morceau de Donjons et Dragons, justement, je ne comprends pas. Et donc, tu voulais nous parler de centaures et de cyborgs. Dis-nous tout. J'ai compris après. Hein. Je ne veux pas me faire paraître plus bête que je ne le suis réellement.
Non, mais bien sûr. Et puis d'ailleurs, c'est.
L'image est très chouette.
Ouais. C'est une métaphore parce que voilà. Des études sur l'impact de l'IA sur le marché du travail, il y en a quand même qui commencent à sortir. Il y en a une qui nous vient de sociologues de la Harvard Business School. Et donc, elle donne dans le métaphorique. Voilà, elle se nomme « Centaures et cyborgs sur la frontière dentelée ». Oh là là, c'est pas beau ça. Hein, c'est ça les sociologues, tu vois, ça a le sens de la formule. C'est pas l'aridité froide des cliniques des ingénieurs, non. On peut être scientifique et poète. Bon, c'est pas mon cas, c'est dommage. Mais bref, les gens ont sélectionné un set de 18 tâches crédibles, on va dire, hein, que doivent effectuer des employés d'une grosse boîte de consulting. Des tâches crédibles dans le sens concret. Bon, ce sont des trucs qu'on pourrait vraiment leur demander de faire. Hein. Donc il y a un groupe qui a utilisé GPT-4 pour s'aider et l'autre pas. Alors concrètement, les tâches d'ailleurs demandées, si vous voulez une idée, dans le cas d'un boulot pour une boîte qui vend des chaussures, ça serait par exemple de proposer 10 idées de chaussures sur un marché sous-exploité, sur un segment de marché sous-exploité, ou alors segmenter le marché de la chaussure par usage, écrire des messages marketing, écrire des mémos de motivation pour les employés pour qu'ils bossent plus dur pour pas en rond, tu vois, enfin, ce genre de trucs. Alors synthétiquement, les consultants GPT assistés ont accompli 12,2% de tâches en plus en moyenne, 25,1% plus vite, et ils ont produit des résultats d'une qualité de 40% meilleure à ceux qui ont bêtement utilisé leur cerveau. Alors c'est des impacts importants, mais qu'est-ce que c'est donc que ces histoires quand même de centaures et de frontières? Parce que bon, à un moment c'est simple, la frontière c'est quoi? C'est la frontière de ce que peut faire l'IA actuellement, ce dont elle est capable. Ce dont elle est capable efficacement, hein, ce qu'elle peut vraiment faire de manière assez fiable. Le truc, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'elle sait bien faire, a priori. Donc il y a des tâches qui peuvent paraître analogues en complexité, et qui peuvent donner des résultats très différents, des efficacités très différentes. Donc une IA peut écrire un poème, ça, il n'y a pas trop de soucis, pas forcément un bon poème, enfin bon, un poème, mais par contre, on sera incapable de compter les mots de ce poème. Parce que compter les mots, ça semble pas compliqué pourtant, mais moins qu'écrire un poème même, mais pour une IA, c'est pas possible. Donc en gros, la frontière de ce que sait faire l'IA est irrégulière. Et donc, si on veut plus de poésie, c'est une frontière qui est comme ça dentelée ou déchiquetée, tu vois. Pour savoir ce que c'est bien faire l'IA, souvent, il faut essayer. Tu essayes, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, les consultants qui ont utilisé l'IA se débrouillent mieux qu'on leur fasse une petite formation dessus ou pas, avant, hein, l'usage semble vraiment intuitif. Donc, il y a un autre résultat de l'étude, qui est intéressant, hein, c'est que l'IA nivelle par le haut les aptitudes des uns et des autres, et que ça bénéficie plus à ceux qui sont le moins doués. Donc, en gros, hein, les participants les plus nazes ont vu leur performance s'accroître de 43%, alors que les meilleurs n'ont vu s'accroître leur performance que de 17%, par rapport à la performance naturelle. Hein.
Heureux les losers, ils profiteront de l'IA.
C'est ça. Et de fait, l'ensemble des performances synthétiques était à peu près au même niveau pour tout le monde. C'était à peine meilleur pour les plus doués que pour les autres. Donc l'usage de l'IA n'a pas que des bons côtés, cela dit. Hein. Ils ont pris un cas où on savait que l'IA allait dire une connerie, un cas où on savait qu'elle allait se planter et que ça serait pas évident à détecter. Il fallait donc faire une relecture attentive. Et puis ça a pas raté, hein, cette tâche qui donc par ailleurs est réussie à 84,5% par des humains tout seuls, n'est réussie que par 60% des gens qui utilisent une IA. Parce qu'ils jouent à Candy Crush en même temps sans aucun doute, hein, parce que voilà, c'est bon, maintenant une fois qu'ils ont confiance, si tu veux, c'est difficile d'être vraiment toujours rigoureux. Et avec un contrôle, une relecture après coup, on remonte à 76,6%. Mais c'est encore moins que les gens tout seuls, quand même. Donc il est tout à fait possible de se mettre en pilote automatique et de trop faire confiance à la machine, de s'endormir au volant et de se retrouver dans le fossé, quoi. Alors pour finir, on va parler des centaures et de cyborgs, quand même, hein, ces métaphores concernant la manière, en fait, d'utiliser l'IA. Alors les centaures, pourquoi? Parce que les centaures, c'est des trucs qui sont à moitié cheval, à moitié humain. Et les deux parties sont bien délimitées. De même, les centaures, donc, dans l'IA, vont utiliser l'IA de manière bien délimitée, selon les capacités dans lesquelles ils ont confiance. Par exemple, un centaure va écrire lui-même une analyse, mais il va laisser l'IA générer le code pour avoir tel ou tel graphique ou faire tel ou tel calcul, tu vois. Donc il va bien segmenter les tâches.
Il cloisonne les tâches et il y en a qu'il continue à développer par ses propres aptitudes et l'autre sur lesquelles il se repose totalement sur l'IA.
Exactement, il se repose sur les gros sabots de l'IA. Les cyborgs, eux, sont des êtres hybrides. C'est des amalgames de technologies et de viande. Et donc, ça désigne des usagers de l'IA qui vont utiliser un petit peu tout le temps l'IA en faisant des allers-retours et en dialoguant avec, un petit peu tout le temps, en testant en permanence l'outil et en gardant ce qui marche et en jetant ce qui marche pas, comme s'ils se baladaient en permanence autour de cette frontière dentelée un petit peu. Donc typiquement, pour écrire un roman, tu pourrais imaginer faire ça. C'est-à-dire, tu pourrais demander les grandes lignes d'une histoire, d'abord discuter avec ton chatbot favori pour avoir les grandes lignes, après tu rajoutes des éléments que tu trouves cool pour modifier le tout, et puis quand t'es une espèce de squelette, tu passes au personnage, et puis ensuite tu souffres toujours sous forme conversationnelle, comme ça tu peux commencer la rédaction des chapitres proprement dit, etc. Donc, c'est une autre manière effectivement d'envisager le truc, qui peut être plus ou moins adaptée selon les domaines aussi, bien entendu. Hein. Donc cette étude, avec d'autres d'ailleurs, hein, comme une qui étudie l'impact de, voilà, sur les programmeurs, ben, ça montre que l'IA a le potentiel d'avoir un impact très important déjà aujourd'hui, avec les chatbots grand public, parce que c'est vraiment GPT-4, hein, donc n'importe qui peut y accéder. Hein. Ouais. Des chatbots grand public qu'on a d'ores et déjà, que tout le monde peut utiliser, et puis malgré toutes les imperfections des chatbots actuels. Donc aujourd'hui, avec la frontière là où elle est maintenant, il y a déjà des impacts potentiels considérables. Et cette frontière, elle ne va cesser de s'élargir, elle va ne cesser de s'éloigner dans les mois et les années qui viennent. Et on ne sait pas du tout jusqu'où.
Et c'est tout le but aussi de suivre des podcasts comme Tech Café, c'est qu'au fur et à mesure, on commence à se faire des idées, on a de la matière pour y réfléchir, on continuera à le faire ensemble. Et là, plus concrètement, on va aller dans un cas d'usage d'exploitation de l'IA. Alors, on ne va pas savoir répondre d'ailleurs. Je ne sais pas si l'auteur va pouvoir dire si elle est plutôt cyborg ou centaure. On aurait pu dire sirène aussi au passage plutôt que centaure. Bref,
ça lui irait très bien.
Et ça lui irait en l'occurrence très bien. Mais oui, au Japon, il y a une personne qui a obtenu un prix. Alors non, ce n'est pas une nouvelle émanation du prix de peinture qui avait été gagné par quelqu'un qui avait utilisé Midjourney. Vous vous rappelez, ça avait été assez emblématique, on en avait parlé. Mais là, il s'agit plutôt d'un premier prix dans... alors je ne sais plus si c'est le premier prix d'ailleurs exactement, mais au sujet de l'écriture d'un roman, Guillaume, dis-nous tout.
Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on parlait d'un journaliste qui avait gagné un prix littéraire de science-fiction en Chine. En utilisant un modèle de langage, à l'époque, je disais aussi que bon, c'était un concours d'amateurs et que bon, sa qualité, de toute façon, ne faisait pas vraiment l'unanimité là-bas. Et cette semaine, on a encore un cas de prix littéraire GPT assisté, mais c'est au Japon, et surtout, c'est le prix Akutagawa, soit le plus prestigieux du pays. Et là, zut hein. Alors, c'est Rie Kudan qui a reçu le prix pour son roman de science-fiction Tokyo Sympathy Tower, qui raconte une histoire autour d'une tour prison, avec des thèmes d'ailleurs autour de l'intelligence artificielle aussi. Et elle a annoncé mercredi dernier qu'elle avait utilisé ChatGPT pour écrire des passages du bouquin. Tout de même, d'ailleurs, à peu près 5% du livre serait directement écrit par ChatGPT.
Ça va, 5%. Ça va.
Ça va, ou pas, je ne sais pas. Les autorités littéraires semblent pas trop choquées au Japon. Par contre, l'accueil de la nouvelle dans les médias sociaux, ou non d'ailleurs, a pas forcément été super positif. Alors plus tard, on a eu un petit peu plus de détails sur l'usage de GPT dans le bouquin. Il y a des passages où des IA du livre, des IA fictives du livre, répondent. Et pour lesquels, bah, c'est ChatGPT qui a écrit les répliques. Donc en fait, les IA du livre, bah, c'est une IA réelle, si on veut, qui a été effectivement citée verbatim. Donc par ailleurs, par contre, l'autrice a aussi confié qu'elle avait pas mal discuté avec ChatGPT, par ailleurs, hein, juste voilà, à bâton rompu, de choses parfois très personnelles, des choses que je cite, on ne peut dire à personne d'autre, et que les réponses lui ont inspiré des passages du roman. Donc a priori, le roman a été en partie inspiré par des échanges avec ChatGPT et contient des réponses générées là où les IA s'expriment dans le livre. Donc est-ce qu'on pourrait pas dire que ChatGPT vient de devenir un personnage de roman ? C'est quand même assez
marrant. Eh ben oui, c'est marrant. Plus ça, effectivement. Oui.
Donc voilà,
d'autant plus que si jamais elle avait voulu simuler le fait que vraiment c'est, et inventer sans intelligence artificielle une restitution de ChatGPT, est-ce qu'on aurait vu la différence par rapport à un résultat qui a été vraiment généré par ChatGPT?
C'est très compliqué, évidemment, alors qu'on trouve que l'usage de ChatGPT dans cette œuvre soit acceptable ou pas. De toute façon, Rie ne va pas s'arrêter, hein, ne va pas s'arrêter de l'utiliser. Elle a dit qu'elle compte s'en servir astucieusement pour ses futurs romans tout en démontrant sa propre créativité. Donc écoute, on attend de voir.
Elle a trouvé la recette miracle et elle nous dira s'il faut être plutôt centaure ou cyborg. Guillaume, on continue avec l'intelligence artificielle, avec Google, parce que Google nous démontre quand même quelque chose. C'est que, alors moi j'en suis convaincu Guillaume, mais tu as peut-être besoin d'étoffer le sujet. L'IA, jamais elle ne remplacera l'empathie d'un humain. Regarde, j'ai un rendez-vous avec un docteur. Il a des résultats un peu sensibles à me donner. Évidemment que je préfère qu'un docteur me prenne en main, n'est-ce pas ?
Alors oui, mais je pense que oui, en fait. Mais c'est vrai que Google a développé un chatbot généraliste. Un chatbot, pas une AGI, hein, pas une intelligence artificielle généraliste, mais un robot tout bib. Enfin, un robot conversationnel tout bib généraliste, hein, qui s'appelle AMI. AMI, c'est pour Articulate Medical Intelligence Explorer. Et tout à fait. Et le nom est pas mal parce qu'Ami, il est plutôt amical, hein, finalement. C'est ça. C'est un LLM, hein, c'est un modèle de langage spécialisé, qui a été évidemment fine-tuné sur du contenu médical, quoi, qui a été confronté à 20 patients, donc des faux patients avec des faux cas diagnostiqués, avec des faux symptômes. Et globalement, les faux patients ont ressenti une véritable empathie qui venait d'Ami, et même plus que les 20 autres faux patients qui ont eu droit à des généralistes en viande. Et c'est pas si étonnant en réalité, parce qu'on peut programmer des chatbots pour être empathiques. Et les chatbots, ils n'ont jamais de soucis, ils n'ont jamais de fatigue, ils n'ont jamais d'émotion. En fait, ils sont constants dans leur attitude, forcément. Et si cette attitude, et si on a hard-codé dans cette attitude le fait d'être empathique, ils sont toujours empathiques. Donc Amy est aussi plus précise. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'elle fait de bons diagnostics plus souvent, un peu plus souvent, ce qui est peut-être lié aussi au fait qu'elle est plus bavarde. Et donc en tout cas, il y a plus d'échanges, elle est plus bavarde, et donc elle glane en moyenne plus d'informations sur le patient. Alors attention, évidemment, c'est un contexte, un scénario très spécifique. Amy s'est révélée, en gros, meilleure que les généralistes, mais attention, c'est des conditions qui sont forcément très éloignées de la réalité, puisque tout s'est passé en double aveugle, mais surtout en texte. C'est-à-dire que c'était uniquement des informations textuelles, quoi, tu vois, c'était uniquement des messages textes. Les patients, d'ailleurs, ne savaient pas s'ils parlaient à un chatbot ou à un humain, tout est passé par un clavier. Alors évidemment, c'est super différent d'une vraie consultation, évidemment du nombre aussi incalculable d'informations et d'interactions supplémentaires qu'un docteur va pouvoir avoir en direct, bien sûr, et de l'accompagnement, forcément, qu'on peut donner avec une véritable relation humaine, quoi, bien sûr. Donc le but n'est pas de remplacer les généralistes, disons que c'est des tests pour voir si on ne pourrait pas, dans les cas où il n'y a pas accès du tout à un service médical, mettre une IA qui serait de toute façon mieux que rien, quoi.
Probablement prouesse toujours dans les résultats et les performances des intelligences artificielles, Guillaume. Ils sont bons en maths ?
Oui, alors là, c'est intéressant. DeepMind s'est encore illustré cette semaine deux fois. Donc d'une part, il bat son propre record de performance avec un nouveau système de génération de code. Et puis, comme on aime la rigolade, on met aussi la honte à tous les lycéens du pays sur un concours de géométrie. Alors, c'est pas vraiment juste pour le fun, ces deux articles. Et c'est intéressant, on va parler un petit peu plus longuement, parce que ces deux systèmes sont en fait reliés par une forme de méthodologie, une manière d'envisager les nouveaux systèmes de deep learning qui est sans doute très prometteuse. Alors pour simplifier, la stratégie est assez logique en somme. On crée des systèmes hybrides, où on utilise des systèmes de deep learning là où ils sont bons, et des algorithmes standards, des programmes tout bêtes, classiques, là où ils excellent. Donc prenons l'exemple de la géométrie. C'est un domaine mathématique pour lequel on a pas mal d'algorithmes déjà qui savent manipuler des concepts et des symboles. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y en a des algos tout à fait normaux, pas du tout des IA qui savent faire du calcul symbolique en mathématiques. Les Mathematica, les Maple, et même certaines calculatrices haut de gamme, comme les TI Inspire, elles savent faire de l'algèbre. Elles savent manipuler des fonctions, elles savent les dériver, les intégrer, etc., de manière symbolique. Donc elles vous donnent vraiment les formules. Alors les expressions mathématiques, en fait, elles sont stockées dans des structures de données pour lesquelles on a des règles de transformation. Les règles pour dériver les fonctions, c'est toujours les mêmes, elles sont fixes, parfaitement connues. Et les règles pour simplifier les expressions aussi, et puis en combinant un petit peu tout ça, on arrive à des résultats qui sont déjà très utiles, des logiciels qui manipulent les fonctions complexes et qui peuvent résoudre explicitement des équations, etc. Alors, c'est des algos qui, en plus, ne se trompent pas. Jamais. C'est-à-dire, ils n'hallucinent jamais. Eux, ils n'ont pas d'hallucination, ils ne se trompent jamais. Ils nécessitent d'ailleurs très très peu de calculs par rapport aux algorithmes de deep learning. En géométrie, c'est la même chose. On a des règles, des transformations permises, et rien qu'en utilisant la force brute, c'est-à-dire en explorant tout ce qu'on peut faire autour d'une figure donnée, on peut déjà résoudre pas mal de problèmes simples, et on est sûr de son coup. C'est-à-dire qu'on suit des règles bien établies, tout ça est rigoureux, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'approximation. Alors, le problème de la force brute, c'est que des possibilités, il y en a beaucoup. En fait, ça explose littéralement avec la complexité du problème. Et très vite, c'est plus gérable. En plus, en particulier en géométrie, mais pas seulement, bien sûr, il faut faire parfois preuve de créativité, entre guillemets, c'est-à-dire pour résoudre un problème. Il faut peut-être parfois rajouter un point à un endroit particulier et considérer la nouvelle figure avec des nouveaux triangles ainsi créés, tu vois. Ces choses-là, les algos symboliques ne savent pas bien le faire, voire pas les faire du tout. Par contre, les algos de deep learning, eux, ça c'est plutôt leur affaire. Parce qu'ils sont pas dans la précision rigoureuse forcément absolue des algos standards, mais ils voient passer plein d'exemples et ils repèrent les trucs qui reviennent et ils peuvent appliquer ça à d'autres cas, ils généralisent, ils développent une forme d'intuition quelque part. C'est une approche qui a déjà été utilisée dans AlphaGo à l'époque. Donc c'est avec ce programme de Go de DeepMind déjà, on avait déjà un côté deep learning qui apportait l'intuition qui permettait de réduire énormément l'explosion combinatoire. Et après, donc l'IA, donc en gros, l'IA, si tu veux, d'un côté faisait le tri pour donner des configurations les plus prometteuses selon elle. Et ensuite, un programme traditionnel qui s'occupait de jouer les coups valides et de raffiner tout ça, quoi. Avec Alpha Géométrie, c'est un peu pareil. C'est un peu analogue, disons. On a un moteur de géométrie symbolique qui est assez classique, et on entraîne un modèle de deep learning à s'exprimer en ces termes-là, en termes de géométrie. En fait, c'est une sorte de LLM, mais qui parle de géométrie. Il parle pas anglais, il parle de géométrie. Et on génère d'ailleurs de manière procédurale des millions de problèmes de géométrie, encore une fois sous forme symbolique, pour que le modèle apprenne comment ça se passe. Et donc, il va développer sa forme d'intuition, sa forme de créativité, basée sur les millions de solutions qu'il voit passer, y compris des problèmes. D'ailleurs, il faut rajouter des points auxiliaires pour s'en sortir. Et une fois entraîné, ça va permettre de générer des stratégies pour résoudre un problème de géométrie nouveau et donner le tout un moteur symbolique qui va s'occuper de le faire rigoureusement, et voilà, tu vois. Donc avec ce système, Alpha Géométrie atteint le niveau finaliste des Olympiades internationales de mathématiques, hein, il résout 25 problèmes sur 30, alors que l'Auréat humain atteint 26. Donc ouais, c'est quasi médaille d'or, quoi. Peut-être médaille d'argent, je sais pas. Et bon, pour ce qui est du code, ben, cette fois on parle d'Alpha Codium, qui est lui aussi un système, et pas juste un modèle. Parce que de plus en plus, si tu veux, on arrête de simplement compter intégralement sur un modèle de langage pour tout faire. Tu vois, pour rédiger direct le prompt pour toi. Le coup de, tu lui demandes, tu as ton prompt, tu lui demandes, ah salut, écris-moi une Tetris pour mon téléphone mobile. Et toi, tu t'attends à ce qu'il te donne le code de l'appli, ça se compile du premier coup. Ça, c'est de moins en moins une piste de recherche, en fait. C'est de moins en moins un truc qu'on essaye de faire parce que c'est très très difficile, ça marche pas bien, ça pourrait arriver un jour, mais bon, pour l'instant, c'est pas difficile. C'est très difficile et c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on propose DeepMind, c'est pas ça, c'est pas un super modèle. En fait, c'est un système qui utilise un modèle qui est bon, mais pas particulièrement dingue, qui en fait peut utiliser plein de modèles différents. La manière dont ça fonctionne est assez intuitive en réalité, puisqu'on permet tout simplement au modèle de langage de faire un peu comme nous, c'est-à-dire de réfléchir. On réfléchit, on écrit un premier jet, on teste, on réfléchit sur ce qu'il produit, on corrige le truc, on revient dessus plusieurs fois avant d'arriver à l'objectif. Et en fait, Alpha Codium, il formalise ça en 8 étapes, hein, qui détaille et raffine, et surtout met en pratique donc cette idée, parce qu'évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et Alpha Codium, on dit qu'il passe du prompt engineering au flow engineering, parce qu'en fait, c'est plus juste on prend un prompt et bon, on essaie de l'optimiser, c'est on essaie de créer un flow comme ça, tu vois, avec un flow, avec des circulations, si tu veux, d'informations au sein d'un système. Et donc, en permettant au modèle de faire plein de tests, en organisant les validations, les allers-retours, on refait sans cesse appel au modèle. Donc en fait, on lui octroie énormément plus de temps de calcul, en réalité. Et ben, quand on fait ça, ben, il arrive beaucoup mieux à résoudre des problèmes de programmation compliqués. D'ailleurs, c'est assez marrant, comme c'est un truc général qu'on a détecté dès le concept de chaîne de pensée, hein, un modèle qui réfléchit dit toujours moins de conneries qu'un modèle qui répond du tac au tac. À méditer peut-être, je sais pas. Mais bon, en prime, Alpha Codium...
Je vais le dire à mes enfants, ça.
Et ben, Alpha Codium... C'est pas donc un modèle, c'est une méthode qui peut utiliser d'autres modèles et qui augmente spectaculairement l'efficacité du modèle utilisé en codage. Même GPT-4, qui est déjà pas trop mauvais, passe de 20 à 45% de problèmes réussis avec Alpha Codium, voire de 10 à presque 30% sur un autre test, sur un autre test set. Il s'agit de problèmes assez ardus en plus, hein, des trucs proposés par CodeForce par exemple, donc des problèmes relativement compliqués. Mais ça marche aussi, d'ailleurs, pour des modèles qui sont moins malins que GPT-4. Ça marche pour GPT-3.5, ça marche pour DeepSeek, qui est un modèle open source, et qui se voit largement boosté. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, dans le sens où il faut faire beaucoup plus d'appels au modèle de langage, qui doit générer concrètement beaucoup plus de tokens. Hein. Donc réfléchir, c'est un prix en termes de puissance de calcul. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même beaucoup plus efficace que AlphaCode, dont on avait parlé, qui est un autre projet de DeepMind dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui permettait aussi de résoudre des problèmes complexes, mais avec une approche beaucoup plus brutale, qui nécessitait de générer et d'exécuter des millions de programmes. Il semblerait que ce ne soit pas nécessaire d'aller jusque-là pour améliorer très significativement les performances en programmation des modèles de langage actuels, ceux qu'on a. Et donc, avec la prochaine génération, on devrait encore péter des records, quoi.
Je retiens, réfléchir, ça a un prix. Ok, eh ben écoute, il faut être prêt à le
payer. Pour ça qu'on dit beaucoup de conneries, parce que souvent, on n'a pas prêt.
C'est vrai, t'as tellement raison. Très bien, je ne désignerai personne dans cet épisode, c'est pas bien. On va terminer cette rubrique, ou presque la terminer en tout cas, avec OpenAI qui va à l'école, qui fait son service militaire et qui essaye de se dépêtrer de petits soucis, Guillaume.
Ouais, petit tunnel de news OpenAI. La semaine dernière, dans le supplément, on se disait qu'OpenAI avait mis à jour ses conditions générales d'utilisation pour virer la mention explicite à l'armée. Avant, c'était écrit que voilà, les usages militaires étaient interdits, et c'est depuis devenu des usages pour faire du mal à soi ou autrui qui sont interdits. Bon, on se demandait pourquoi. Ben, la question, elle est déjà répondue. Bloomberg révèle une coopération d'OpenAI avec le département de la défense américain sur des questions de cybersécurité, sur la prévention du suicide chez les vétérans. On n'a pas de détails, hein, sur la forme que ça pourrait prendre. Ça pourrait être un chatbot de soutien psychologique, par exemple, on ne sait pas. En plus de l'armée, OpenAI a aussi un deal avec une université, celle d'Arizona, où ChatGPT pourrait être utilisé par les étudiants, et les cas d'usage sont d'ailleurs encore discutés, et parfois suggérés par les étudiants eux-mêmes. Donc ça pourrait être un petit peu tout, des aides à la rédaction dans les classes de journalisme ou d'anglais, des tuteurs personnalisés pour les étudiants dans tous les domaines. Et bien sûr, bah, comme ça, ils ont amplement l'occasion de discuter de comment ça marche, de bien comprendre les forces et les faiblesses aussi de ces nouveaux outils. Donc c'est Arizona State University qui va utiliser le programmeur ChatGPT Enterprise, qui permet apparemment un plus grand contrôle sur les données personnelles. C'est un facteur qui a été déterminant dans l'adoption d'OpenAI pour ce qui est, il semblerait, hein, son premier partenariat officiel avec une institution scolaire. D'ailleurs, je me souviens très bien d'ailleurs de ces deux. Il y a un an tout pile, on était quelques mois à peine après la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Je me souviens à quel point ça avait secoué le monde enseignant, à quel point on parlait à cette époque souvent de cas de triche pour les devoirs et tout, et de comment on allait concilier le travail personnel et le travail assisté.
Oui.
Donc c'est marrant de voir que bon, ben voilà, ça a déjà changé. Donc officiellement accueilli en tant qu'outil quotidien dans une fac. Et sans doute que le début de tous ces usages qui vont faire exploser d'ailleurs les besoins de la boîte en cas de puissance de calcul. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Sam Altman semble continuer à faire le tour des popotes pour trouver des sous, à investir dans la conception et la fabrication de ses propres puces optimisées pour ses propres besoins, comme à Microsoft avec ses processeurs Maya 100. Altman cherche donc à lever des milliards de dollars pour lancer un réseau d'usines qui va fondre ses puces, les puces OpenAI, il y a des puces OpenAI à la tonne. Ah, pour ça, pour ce genre de truc, faut pas des petits porteurs. Faut des investisseurs de poids lourds. Il semble que SoftBank et la holding émirati G42 soient sur le coup, en tout cas, c'est en train de discuter. On voit bien a priori à quel point on est dans le dur là, hein, puisqu'on est quand même dans une compétition qui est réservée à un club assez select, puisque t'as quand même Meta qui se lance avec 18 milliards de GPU hein, derrière, puis t'as Microsoft, Amazon et Google, bon, voilà, on n'en parle pas. Apple, j'y vais pas, le dernier des clochards. Donc voilà, ça, tout ça se prépare doucement, donc on aurait quand même pu croire qu'OpenAI se contenterait d'utiliser Azure au début, et toutes les puces que Microsoft aurait bien lui attribuer. Et on voit bien finalement à quel point OpenAI veut exister par elle-même, et même carrément envisage de se mesurer carrément au géant du secteur en devenant un nouveau géant lui-même. Donc OpenAI ne veut pas être un labo IA de Microsoft supplémentaire, hein, ça n'est pas du tout. Son ambition, c'est clairement de concurrencer à peu près toutes les autres boîtes tech en réalité, parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un outil polyvalent et super performant en tout. C'est ça la GI en réalité, un outil polyvalent. Et donc l'outil ultime qui sait tout faire. Donc du coup, c'est concurrent avec tout le monde. Enfin bon, ça c'est si OpenAI réussit et a le champ libre, hein, parce que pour l'instant, il y a peut-être des petits bâtons dans les roues, avec des choses un petit peu futiles comme le droit d'auteur ou les soucis de mensonge et de diffamation. Parce qu'on se souvient peut-être de l'action en justice de Mark Walters, hein, qui est un animateur radio pro-armes aux US et qui est un ami journaliste, qui lui a fait remarquer que ChatGPT avait inventé tout un procès pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est un détournement de fonds. Et donc Walters a attaqué OpenAI en diffamation, et ce dernier avait tenté de faire annuler le cas. Sur la base qu'il n'y avait aucune intention de nuire et qu'il n'y a pas non plus de preuves que la génération de ChatGPT ait effectivement causé du tort aux plaignants. Et pourtant, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que le cas va quand même aller en justice, la procédure va se poursuivre. OpenAI n'a pas convaincu la cour, elle a même frustré la cour d'ailleurs, apparemment elle est noyante sous la documentation, ça les a saoulés, bon je sais pas. Donc on va voir ce qui ressort de tout ça, peut-être rien du tout, mais peut-être des soucis. Donc voilà, je ne suis pas trop inquiet non plus, mais ça pourrait être un procès intéressant à suivre.
Ce sera peut-être bientôt, on appellera ça les gamamos, si on doit dire les gamam et OpenAI. Je ne sais pas, il faudra... Bon, il y a encore pas mal de...
Les Oméga de...
Oh, les Oméga oui, mais non, c'est les Omaga, du coup. Enfin bon, bref.
Je ne sais pas, j'ai pas trop réfléchi, j'ai sorti comme ça. Tu sais, j'ai pas fait comme Alpha Codium. J'ai parlé sans réfléchir.
On verra ça, on trouvera avec Jean-Michel Acronyme la bonne terminologie qui va bien. Et c'est... Oui
ah, j'ai oublié de faire un erratum.
Ah, vas-y.
Oui, non, mais parce que j'ai dit à propos de l'observatoire Vera Rubin, donc je crois que c'était dans le. Je sais plus si c'était dans le supplément ou pas, mais bon. J'ai dit que, on avait parlé de l'observatoire Vera Rubin qui avait énorme, 3200 mégapixels de caméra, la plus grosse caméra numérique du monde. Mm-hmm. Et j'ai dit, de toute façon, s'ils s'emmerdent, ils pourraient regarder de là où ils sont au Chili, hein, ils pourraient regarder, donc, je sais pas, un match de baseball à New York. Et
ah oui.
Un ami m'a très justement fait remarquer.
C'est pas possible pour la ligne droite, c'est ça?
C'est pas possible parce que la Terre est ronde.
Oui. Oh oui, alors je l'avais relevé sur le coup, mais évidemment on avait.
Non, mais t'aurais dû. Non, mais parce que tu vois, j'ai pas du tout réfléchi. Ben, j'ai dit une grosse connerie.
Ouais, si la Terre était plate, ça marcherait. Oui, c'est ça. C'est bon, ça permettrait. Au passage, OpenAI, c'est rigolo parce que du coup, j'imagine qu'ils ont des armadas de juristes qui doivent être assez éclairés sur tous ces sujets-là parce qu'ils savent probablement que ça va être un sujet pour eux dans les années à venir. Mais du coup, c'est un aveu de faiblesse. Parce que ça veut dire que ChatGPT, que GPT-4 n'est pas plus fort qu'un juriste. Ha ha ha, vous avez vu, c'est compliqué. Bon, bref. Allez, on va terminer cette rubrique pour aussi quand même souligner à quel point il est important de prendre le train en marche et sans doute pas de se laisser distancer, parce que ceux qui ont misé massivement sur l'intelligence artificielle voient les résultats conséquents arriver, Guillaume, dans leur part de marché.
Oui, alors Square Enix l'avait annoncé, de toute façon, ils vont utiliser l'IA de manière agressive. Et ça commence de manière agressivement tranquille, puisqu'en gros, ils ont découvert Midjourney, quoi.
Ah, je croyais que tu voulais parler de Bing, j'avais pas dit.
Ah pardon, oui, oh là là,
c'est les parts de marché de Bing, il faut qu'on complète ça avant de parler des jeux vidéo.
Bah, oui, t'as raison, Microsoft était prêt à tout hein, pour déboulonner Google. Donc ils étaient même prêts à dépenser sans compter. Et il a complètement revu sa stratégie, il a tout recentré autour de l'IA, c'est vrai, et des services d'OpenAI hein, dans lesquels ils ont quand même injecté 10 milliards de dollars pour refondre complètement Bing et en faire une expérience nouvelle génération pour le meilleur, pour le pire. Alors, tous ces efforts, après toutes ces innovations et tout ce pognon, est-ce que ça a marché? Est-ce que Bing a enfin réussi à dépasser sa part de
oui,
marché qui n'a jamais été
explosé.
Au-dessus de 3,5%? Eh ben,
bien
pas du tout. Désolé. Alors, les parts de marché de Bing en 2009, c'est 3,5%. Les parts de marché de Bing en décembre 2023, c'est 3,4%, selon StarCounter. Alors aux États-Unis, c'est toujours un peu mieux, puisque c'est 7,7%, alors que c'était 6,7%. Alors, c'est 7,7% en décembre, alors que c'était 6,7% en décembre 2022. Mais c'est pas. Alors déjà, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une trajectoire météoritique, tu vois, je sais pas. Et en plus, l'usage est resté autour de 6,6% pendant le plus quart de 2023 et s'est monté un peu en fin d'année. Et de toute façon, Bing aux US a toujours été entre 6 et 7% de toute façon. Donc en conclusion, on peut dire que bah non, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de Big Bang pour Bing. Et voilà, le chat d'ailleurs devient copilote. Bon, bah, donc péter la gueule à Google, c'est compliqué.
Ouais, donc c'est pas forcément l'idéal, quoi. En tout cas, c'est pas suffisant pour obtenir des succès. Tony Truant, mais peut-être que ça va venir. En attendant, on va parler donc, pour le coup, vraiment de jeux vidéo. Il y a des licenciements hein, aussi, au passage. Je les ai vus passer tout à l'heure chez Riot Games aussi, qui licencie 500 employés. Mais oui, tu voulais nous parler un petit peu de Square Enix.
Oui, donc Square Enix qui ont découvert, comme je disais, Midjourney. Donc, ils vont sortir un jeu qui, apparemment, ressemble à une sorte de Splatoon sans poulpe, mais avec de la mousse, et qui va fonctionner ailleurs que sur Switch, hein, surtout. Et pour certaines images in-game, alors, ils disent que c'est les couvertures d'albums de la musique du jeu. Ils ont utilisé des images génératives. Et pour le reste, pour tous les autres assets, les modèles, textures,
etc. Ah oui,
c'est
très limité. Si c'est les couvertures d'albums. Ok, d'accord, je ne savais pas.
Pour l'instant, c'est très limité. Tout a été fait à la mimine, sauf quelques images à l'intérieur du jeu. C'est pas pour longtemps, néanmoins, parce que Square Enix dit qu'ils veulent expérimenter les outils IA à court terme. Ils veulent améliorer la productivité des équipes et sophistiquer leur campagne de promotion en utilisant ça. Ça vient, voilà. Donc on sent que ça vient, et puis bon, bah, c'est un peu inexorable, et d'ailleurs les développeurs de jeux le sentent très bien arriver, puisqu'il y a les chiffres du grand sondage de la GDC 2024 qui sont tombés, et qui regroupent les réponses de 3000 pros du secteur du jeu vidéo. Et la question des outils, les outils IA génératifs sont-ils utilisés dans votre compagnie? Bon, bah là, il n'y a que 23% des répondants qui disent non, et on n'est pas intéressé. Il y a 31% qui répondent oui, il y a 18% qui répondent non, mais certains collègues oui, c'est pas moi, c'est lui, et 15% qui répondent non, mais on est intéressé. Donc ça fait 64% de personnes qui utilisent les outils ou qui sont intéressées. On a aussi 9% de je ne sais pas, et 4% de autres, donc j'ai pas les gens qui n'ont pas compris la question, je ne sais pas ce que c'est. Du reste, les boîtes elles-mêmes ne sont pas contre, hein, en majorité en tout cas, puisque seuls 12% des boîtes les interdisent tout IA. Il y a 7% qui en interdisent certains. Dans 62% des cas, bah, ils sont optionnels, donc vous pouvez y aller, hein, allez-y, si vous voulez. La plupart du temps, en fait, il n'y a pas de règles du tout. Par contre, on trouve aussi plus loin que 4 pros sur 5 sont quand même un peu inquiets à propos des implications éthiques de tout ça. Et par ailleurs, on note aussi qu'un tiers des répondants ont été impactés par les vagues de licenciements, hein, qui continuent donc, hein, tu l'as dit, qu'ils en craignent d'autres et qui sont un peu plus nombreux que l'an dernier, 57% à penser qu'il serait bon que l'industrie se syndique plus. On peut conclure en disant que si les développeurs sont inquiets, et si sur les réseaux sociaux, chaque occurrence d'images générée par une IA ou une autre provoque pas mal de réactions, on avait parlé voilà, de Wizard of the Coast, on avait parlé de The Finals la semaine dernière, ben, ça semble pas particulièrement se répercuter sur les ventes. Donc on parlait de The Finals, et The Finals, donc je vous rappelle, c'est ce jeu multi où tu peux tout casser, là, voilà, qui avait utilisé des voix de synthèse plutôt que des acteurs de doublage, et ça avait fait beaucoup réagir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait dit, c'était vrai, ça avait beaucoup réagir sur le réseau. Mais bon, en ce moment même, il est quand même dans les 20 jeux les plus joués du monde. Et il récolte que des notes positives sur Steam. Donc, la controverse sur les réseaux sociaux, faut rester... c'est un peu comme la controverse autour du jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy avait subi des appels au boycott à sa sortie. Il y avait eu beaucoup de scandales, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais...
C'est vrai.
Bon, ça n'a pas marché. Dès le mois de mai dernier, hein, en 2023, il dépassait le milliard de recettes. Et là, il a dépassé les 22 millions d'unités vendues. Donc, il y a quand même parfois une très grande différence entre la perception qu'on peut en avoir sur les réseaux sociaux et puis bah, la vraie vie, quoi.
On continue, du coup, avec les jeux vidéo, Guillaume ?
Oui, on continue. Alors, c'est juste
j'ai
un
oui
truc
dire
rigolo.
Qu'un chien arrivait à faire de meilleures performances que les humains. Qu'en est-il ?
Oui, c'est pas vrai, mais c'est rigolo quand même. En fait, il y a bon, alors en ce moment, c'est les Game Zone Quick là. C'est le festival de speedrunning. C'est pour la charité, bien sûr. Donc voilà, vous donnez, ça donne à des bonnes œuvres. Et en fait, bon, il y a pas mal de vieux jeux qui sont utilisés. Et là, il y en a un qui m'a fait marrer parce que en fait, il y a un gars qui a un chien qui s'appelle Peanut Butter, Pibi pour les intimes, qui joue à Gyromite. Et Gyromite, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, Gyromite c'est un jeu qui se joue avec le robot de la NES, puisque la NES, la Nintendo Entertainment System 8-bit, hein, avait une option en robot qui en fait était capable de très peu de mouvements, mais des mouvements qui avec une petite pince, il pouvait prendre. Donc gyroscope, il pouvait le prendre d'un endroit et le mettre à un autre endroit, c'est tout. Et en fait, il fallait utiliser la télé pour lui envoyer des messages, comment dire, des signaux optiques pour qu'il puisse faire ça. C'était excessivement chiant. Je le dis, c'était atroce de jouer à Gyromite avec le robot. C'était vraiment un calvaire. J'y ai joué avec mon père qui jouait le robot et c'était beaucoup plus sympa. Et là, en fait. Parce que le robot, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il appuie sur A ou B de la manette, mais en foutant une espèce de toupie dessus. Et okay. En fait, c'était un calvaire. Et en fait, il suffit d'appuyer sur A ou B, c'est tout, tu vois. Et donc, bah, y a un gars qui s'est dit, je veux dire, à la place du robot, je vais utiliser mon chien. Donc, il a entraîné son chien à appuyer sur le bon bouton au bon moment, et il a réussi à faire, pas score, mais pas loin quand même. Hein. C'est-à-dire, il a réussi à finir Gyromite à un temps record. Alors, c'est 26 minutes et 24 secondes.
Ah ouais.
Qui est presque le meilleur temps de Pibi. Donc Pibi,
wow.
Alors, c'est en plus Pibi, c'est marrant parce que donc Pibi pour Peanut Butter, mais le mec qui est donc le propriétaire du chien est un speedrunner et Pibi en langage de speedrunner c'est personal best, c'est-à-dire c'est son meilleur score personnel.
Ah ok donc, d'accord, c'est son record personnel. D'accord.
Exactement. Donc Pibi n'a pas battu son Pibi sur Gyromite, mais voilà, il a quand même réussi à finir le jeu avec son maître et c'est vachement rigolo.
Bravo, c'est rigolo, effectivement. Tu nous parles de Palworld ?
Alors oui, Palworld, juste pour dire effectivement que Palworld est un jeu que je trouve assez rigolo. Moi, j'y jouerai pas parce que j'ai absolument rien à foutre, mais c'est donc Palworld, c'est Pokémon avec des flingues, hein, donc c'est ça, c'est exactement le même système que Pokémon. Enfin, en gros, c'est un mélange de plein de choses. C'est un open world où il y a du crafting, un petit peu comme dans Minecraft quelque part, mais où vous pouvez donc choper des créatures comme dans Pokémon, hein, exactement. Vous pouvez les élever, vous pouvez les faire se battre entre elles, mais la différence... c'est que vous pouvez aussi les tuer, les bouffer, et vous pouvez les faire se battre entre elles avec des guns. Et bon, c'est devenu un mème, ce truc, et tout le monde se
c'est
demande...
C'est les Pokémon pour les républicains, quoi.
Et en fait, voilà, et ça divise énormément, et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais alors, est-ce que ça va, oui ou non, déclencher les foudres de Microsoft, de Nintendo ? Parce que, effectivement, oui, si tu regardes comme ça, il y a quand même des monstres qui ressemblent, et puis le style graphique, il ressemble beaucoup, etc. Et donc, sur Numérama, en fait, il relaie une vidéo de quelqu'un qui parle de ça, et qui donne des bons arguments pour dire qu'en fait, non, Palworld ne craint absolument rien, parce que, déjà, tu peux pas déposer un style graphique, tu peux pas non plus déposer un gameplay, le gameplay de Tetris, vous avez le droit de faire un truc comme Tetris. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire un truc qui peut se faire passer visuellement pour votre jeu. C'est-à-dire, mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pour lui, Palworld ne peut pas se faire passer pour Pokémon, parce que justement, il dit non, mais nous, on est Pokémon, mais avec des flingues, avec des fusils, tu vois, et c'est ça leur fond de commerce en fait. Et comme ils font exprès de se démarquer de Pokémon en rajoutant des armes, du coup, Nintendo ne peut pas dire « vous faites un plagiat de Pokémon », parce que c'est justement vrai, tu vois. Donc, ils ont été assez malins, et très probablement, ils n'auront pas de problème avec Nintendo, parce que je ne pense pas qu'ils soient attaquables.
Eh bien, tant mieux pour eux, quelque part. Effectivement, je ne sais pas si je serais très client de ce genre de jeu, mais pourquoi pas. Un dernier mot pour le Xbox Dev Direct.
Eh ben oui, parce qu'il y avait le Xbox Direct, et puis bah, y a eu des jeux. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des trucs...
J'ai absolument pas suivi, à part Indiana Jones,
ah, mais ben
qui
voilà,
m'a l'air d'être
même.
L'incarnation d'un gameplay pour lequel je ne suis pas certain d'arriver à trouver du temps dans mon temps de joueur. Et pourtant, j'aime beaucoup Indiana Jones, les films.
Écoute...
À part le crâne de cristal.
Disons qu'il y a eu, donc, en gros, 4 jeux. Enfin, voilà, il y a Evode. Il y a eu donc des images de Evode, donc on a enfin vu là à quoi ça ressemblait. Bon ben voilà, ça a l'air joli. Bon, on va voir, le combat a l'air vraiment sympa. On a vu donc Hellblade 2 un petit peu, on a vu aussi Vision of Mana. Bon, c'est des trucs qu'on avait vu par ailleurs, voilà, il y a plus de détails, ça c'est pas mal. On a vu Ara, History Untold, qui est donc une sorte de 4X, mais en gros c'est Civilization, mais en joli quoi. Enfin, je sais pas, sauf que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus dynamique en plus, c'est au tour par tour. Mais c'est un tour par tour dynamique, donc tu peux jouer pendant le tour de l'autre, et du coup, ça a l'air quand même plus sympa aussi pour le multi de ce côté-là. Et puis, évidemment, il y avait Indiana Jones, ouais, donc Indiana Jones qui et je savais pas d'ailleurs, qui est produit par Todd Howard, qui est donc le mec qui produit Skyrim, enfin là, qui produit Starfield, ouais, c'est le producteur de chez Bethesda, quoi. Et donc, bon, alors, je sais pas, t'en penses quoi, toi, graphiquement ?
Ah, je suis pas très très client, ça a l'air très beau, mais je sais pas si je suis prêt à passer du temps comme ça à jouer à un jeu qui ressemble finalement plutôt à un film, et pour lequel je préférerais regarder un film, mais je suis un peu cynique, hein, je le sais.
Non, mais c'est marrant, effectivement, c'est Machine Games qui fait que ça, c'est les mecs qui ont fait les Wolfenstein. Et écoute, ça a l'air bien foutu. Et finalement, je pense que la boucle est bouclée, quoi. Alors, ça s'appelle le Circle of the Ancient. Et effectivement, si tu veux, c'est la boucle est bouclée, parce que finalement, je pense qu'il est mieux là, tu vois. J'ai vu il n'y a pas très longtemps le dernier Indiana Jones, et ça m'a fichu un coup, quand même, ça m'a quand même fichu un coup de vieux, quoi. Parce que bon, il le rate pas, enfin, je veux dire, tu vois, il est vieux, ça se voit, ils en jouent, bon. Et quelque part, je pense que devenir un personnage de jeu vidéo, ce qu'il a déjà été, hein, évidemment, puisque j'ai joué à Indiana Jones 3, Indiana Jones 4, enfin voilà, les vieux verront de quoi je parle.
Ouais.
Je pense que c'est finalement sa place, quoi. Et c'est vrai que ça boucle une boucle, parce que c'est Indiana Jones qui a donné naissance à des trucs comme Tomb Raider, hein, qui a inspiré des trucs comme Tomb Raider, puis qui a inspiré des trucs comme Uncharted. Et finalement, là, on a l'impression de revoir une sorte d'Uncharted à la première personne, un petit peu quand même, avec ça. Et c'est assez marrant, bon, ça a l'air joli. Les visages auraient peut-être pu être un petit peu mieux faits, mais bon, écoute. On a enfin, effectivement, donc, un nouveau jeu Indiana Jones, et c'est plutôt cool.
Indiana Jones, j'ai une saveur particulière, parce que le dernier film était sorti, et j'avais prévu d'aller le voir au cinéma avec des amis. Et à la fin des bandes-annonces du début du film, je reçois un coup de fil pour dire qu'on avait embouti ma voiture dans un créneau raté. Et donc, j'ai quitté le cinéma, je n'ai jamais vu le film et je n'ai jamais eu envie de le voir parce que ça m'a toujours rappelé ce douloureux événement. Voilà, sache-le. Peut-être un jour, je verrai quand il y a autre chose. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue hyper complète de l'actualité tech. J'espère évidemment qu'on sera fidèle à ce que nous disait notre auditeur dans l'avis Apple Podcast pour souligner le fait que ça lui apportait une information qualifiée et que ça l'occupait bien dans ses transports au quotidien entre son domicile et son travail, comme le disait Nets ABC. Vous pouvez bien entendu continuer à interagir avec nous. Alors, d'une part, si vous êtes définitivement convaincu de la plus-value de Tech Café dans votre quotidien, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Profitez du flux privé du podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Réagissez sur techcafé.fr dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou même, et c'est peut-être le mieux, sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Et puis, vous pouvez nous solliciter à titre individuel. Pour ta part, Guillaume, c'est extrêmement simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Écoute, moi, on va me retrouver en train de discuter avec ChatGPT, probablement, pour savoir si je suis un centaure, un cyborg, ou une chimère, ou un cybergriffon, ou un mécadinosaure, je sais pas, enfin, un truc classe, un petit peu, quoi.
Ok, t'as pas une première idée, tu sais pas si...
Un mécadinosaure.
Ah, bon, d'accord. C'est noté, merci beaucoup, Guillaume. Je ne suis, pour ma part, qu'un humain de viande, comme tu aimes à le dire. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Alors, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est vraiment tous Guillaume Vendée. Que ce soit sur Mastodon, Blue Sky, X, peut-être encore un peu Instagram, allez savoir. Je suis présent partout, mais je suis surtout présent aux côtés de Guillaume Poggiaspala deux fois par semaine dans un épisode de Tech Café. Et donc, bien entendu, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.